Bonsoir. Réaménagement des horaires des services au sein de l'administration publique. Depuis le 1er août de cette année, les fonctionnaires de l'État sont soumis à un nouvel horaire de service. La nouvelle réglementation établit que les horaires des services au sein de l'administration publique seront de 8h à 16h avec une pause d'une heure de 12h à 13h pour un total de 40 heures de travail par semaine. La semaine de travail passe de 6 à 5 jours du lundi au vendredi avec le samedi désormais considéré comme jour non ouvrable. Cependant, sur le terrain, cette nouvelle réglementation fait l'objet de nombreuses critiques. Plusieurs agents et fonctionnaires de l'État à Kinshasa, comme dans certaines villes du pays, se plaignent des difficultés de transport auxquelles ils font face pour arriver au bureau. Ils affirment aussi se buter à un problème sérieux d'espace pour travailler. En Boujimaï, par exemple, certains travaillent debout sous les manguets, d'autres dans les couloirs. Quelle est-ce que faire de cette situation et comment améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de l'État? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 22 août 2024. Participe au débat Carlos Kaloto, conseiller en charge des réformes à la vice primature de la fonction publique. Monsieur Kaloto, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste, madame Kelly, bonsoir.
Guy Koukou, aussi avec nous dans ce débat, il est président de la Confédération démocratique du travail, CDT en sigle, et coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Monsieur Guy Koukou, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Aussi avec nous dans ce studio, Polydor Tangeli, expert en matière de travail, il est secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'expertise et intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvrés. Polydor Tangeli, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir aux auditeurs.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
À la fonction publique, les fonctionnaires de l'État sont contraints de respecter le nouvel horaire des services entré en vigueur depuis le 1er août 2024. Dorénavant, le travail commence à 8h et se termine à 16h. Mais seulement, après 2 semaines d'application de cet horaire, plus de 2 semaines je dirais, des voix s'élèvent pour déplorer les difficultés de transport auxquelles font face les agents de l'État pour arriver à temps au travail. Entre-temps, sur place, cette nouvelle mesure a créé un engouement des travailleurs dans les différents bureaux où les places sont limitées. Askel Digbia pour le reportage.
L'encombrement des différents bureaux à la fonction publique est une réalité. La mise en vigueur stricte de nouveaux horaires a été prise au sérieux par bon nombre de fonctionnaires de l'État. Ils viennent maintenant nombreux au travail, ce qui pose un problème d'espace, atteste l'agent de l'État, Gilles Botialina.
Ces mesures sont bonnes, mais normalement ça devrait d'abord commencer par l'amélioration des conditions de travail.
Actuellement, dans un bureau, vous pouvez vous retrouver au nombre de 6, 7, voire même 30. On est censé faire des rotations comptées. Des locaux, ça ne peut pas nous contenir par rapport à l'effectif.
Par ailleurs, selon le témoignage, les nouveaux horaires s'appliquent avec peine. La majorité des fonctionnaires de l'État se lamentent des difficultés de transport pour arriver au travail. Touré Kilori Okale, agent au ministère de budget.
Les conditions ne sont pas réunies, entre autres. La distance, nous sommes dans un milieu qui n'a pas de route, les embouteillages nous bloquent. Au niveau des services, il y a maintenant les chefs de service qui prennent rigueur. Si vous arrivez à 8h30, vous devenez retardataire.
Au cabinet du ministre de la fonction publique, on affirme que la nouvelle réglementation a été prise dans le sens, entre autres, de renforcer la discipline, la productivité du travail de l'État et d'assainir les ressources humaines en vue d'avoir un agent pour poste et un salaire.
Merci à Askel Digbia pour ce reportage au Kassa Oriental, précisément à Mbujimaï. Un engouement des fonctionnaires s'observe depuis le début de ce mois d'août au bâtiment administratif de Mbujimaï. Leur présence est justifiée par le respect de la nouvelle réglementation concernant les horaires des services au sein de l'administration publique. Cependant, les conditions de travail laissent à désirer, affirment plusieurs fonctionnaires ainsi que leur chef de division provinciale, Esther Dalafina.
À l'entrée principale du bâtiment administratif sur le boulevard Musée Laurent-Désiré Kabila, une impressionnante présence de fonctionnaires est remarquable sous deux arbres dans la cour des deux bâtiments qui abritent une quarantaine de divisions. Pourquoi vous êtes debout, monsieur?
Il n'y a pas de bureau où aller travailler, c'est pourquoi nous sommes sur les manguiers. Beaucoup de fois, nous travaillons dans les couloirs.
Dans les couloirs, des tables et des chaises sont placées les unes des autres. Il faut se faufiler pour accéder au bureau. Un fonctionnaire se plaint.
Nous sommes venus travailler de 8h à 16h, avec une pause d'une heure. Mais dans quelles conditions?
Dans une division, les agents sont assis sur des bancs pupitres comme des élèves dans une salle de classe. Ils disent être indignés.
Vraiment, ça ne va pas avec la chaleur. Et nous restons côte à côte, nous risquons de nous contaminer. Traversons une mauvaise période d'épidémie.
À la division provinciale de la fonction publique des actifs, pas d'espace au bureau du chef, couloir bloqué, Jean de Dieu Boudila ne cache pas sa désolation.
J'ai 12 bureaux. Pour chaque bureau, a au moins 6 âges. Mais regardez, travaillez dans des conditions difficiles. Le bâtiment n'a même pas de bonnes fenêtres pour aérer les salles. Pas du courant pour que l'on puisse chercher des ventilateurs afin de bien respirer.
Signalons que tous les fonctionnaires trouvés au bâtiment administratif utilisent 4 vieilles latrines. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Merci Esther Ndalafina depuis Mbujimayi au Kasaï Oriental. Carlos Caloto, je rappelle que vous êtes conseiller en charge des réformes à la vice primature de la fonction publique. Votre réaction après avoir suivi ce reportage de Kinshasa et de Mbujimayi?
Merci beaucoup pour la parole accordée, Madame Kelly. Mais avant vraiment de commencer, je voudrais vous remercier. Remercier la radio Okapi pour cette opportunité qu'elle nous accorde pour venir répondre à cette invitation et saluer son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, la modernisation de l'administration et l'innovation du service public, monsieur Jean-Pierre Liaou qui nous écoute sûrement et qui aurait sûrement aimé, si le temps le permettrait, de venir répondre personnellement à cette invitation et aux préoccupations de nos compatriotes. Alors, pour répondre à votre préoccupation, on est tout à fait là, en train d'écouter nos compatriotes qui retracent les diagnostics. Et il n'y a aucun débat sur les diagnostics. Le problème auquel font face le fonctionnaire sur toute l'étendue du territoire national sont réels. Et le VPM Jean-Pierre Liaou est revenu pas si tard que hier à travers une émission offerte à la radio Top Congo sur tout ce problème. Les problèmes sont évidents. Les problèmes de pléthore au sein de l'administration publique, les problèmes de difficultés de déplacement, ce sont des problèmes réels. Mais ce sont aussi des problèmes qui démontrent à suffisance combien notre pays, combien notre administration publique, depuis des décennies, est tombée si bas. C'est un constat qui, alors, démontre combien, comme le VPM Jean-Pierre Liaou a souvent l'habitude de le dire, combien nous marchons par la tête. Comment, comme le dit le chef de division provinciale, vous l'avez dit, au Kasaï, comment il peut, dans sa division, qui a une capacité d'accueil de, disons, 30 personnes, avoir à la place 200 personnes, 300 personnes.
Comment ça s'explique?
Oui, ça veut dire qu'on a comme ça hérité, dans notre pays, d'une administration qui, au fil des années, a perdu de sa substance. On est comme ça dans une administration qui a été trouvé lamentablement désorganisé, désorienté. Et c'est face à cette situation que le gouvernement essaye de réserver une thérapie de choc. Il faut traiter cette maladie, parce que ça ne va pas continuer comme ça, on ne doit pas continuer comme ça. Il faut apporter à ce problème de sureffectif qui est dû que par une désorganisation du système de recrutement dans l'administration publique, à travers de réponses.
C'est chaque ministre qui vient, qui recrute les gens.
Et non seulement que
On recrute les gens, mais on n'améliore pas les conditions de travail, on ne modernise pas les bâtiments de la fonction publique.
On va y revenir, parce que, vous savez, ce constat-là, aujourd'hui, n'est plus forcément le même en termes de thérapie, parce qu'il y a une thérapie qui est en train d'être administrée à ce constat-là. Et nous espérons que
comme dans tout processus de maladie, les actions qui sont entreprises aujourd'hui vont produire demain des résultats escomptés. Ça veut dire, de manière concrète, qu'aujourd'hui, la fonction publique est en train de piloter le processus d'identification biométrique sur toute l'étendue du territoire national. La fonction publique procède à la restructuration de tous les services publics à travers la dotation de cadres et structures organiques pour chaque administration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour chaque administration, pour chaque service, au travers des missions qui sont allouées à ce service, on essaie de déterminer avec exactitude combien de personnes il faut pour que ce service puisse réaliser la mission pour laquelle l'État a créé. On est dans un pays où l'État est un piètre DRH. Quelle est la structure privée, quel est ce patron d'une société commerciale qui peut créer sa boîte? Il sait que sa boîte, il a besoin que de 10 personnes, il n'a un budget de rémunérer que 10 personnes, et il va comme ça recruter 1000 personnes pour sa boîte, sachant que c'est une charge supplémentaire, sachant qu'il n'a pas de place pour le mettre, pour travailler, et les gens, vous le dites si bien dans votre reportage, les gens, ils s'asseyent sur des bancs comme dans un auditoire d'étudiants qui sont à part de visage. Donc, il faut cesser ça.
Et d'autres travaillent sous le manguier, d'autres encore dans les couloirs, debout.
Le constat, on peut passer tout le temps pour en discuter, les constats, on ne va pas le changer. Ça, c'est l'état des lieux. Ça, c'est le diagnostic. Mais à ces diagnostics-là, il faut tenir compte de la thérapie qui est administrée. Et moi, je suis venu pour, effectivement, au nom de son essence, Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liaou, partager avec nos compatriotes qu'est-ce qui est en train d'être fait pour arriver à échéance, à redorer l'image de l'administration publique.
Alors, les fonctionnaires saluent les mesures du ministre, mais seulement, ils pensent que... On devrait commencer d'abord par améliorer les conditions de travail au lieu d'obliger les gens à arriver au travail à 8 heures, travailler jusqu'à 16 heures. Dans quelles conditions ? Pas de chaises, pas d'ordinateur, 4 heures la prime à peine pour toute une administration.
Alors tout de suite, je vais commencer par recadrer quelque chose, vous allez me permettre. Quand on parle de conditions de travail, il faut qu'on soit un tout petit peu d'accord avec les concepts. L'horaire du travail fait partie des conditions de travail. Et il faut se dire, on vient de quel système ? Il ne faut pas oublier que c'est bien beau de parler de 8 heures, de 8 heures à 16 heures. Mais avant, c'était quoi ? Avant, c'était l'heure d'arrivée, 7h30. C'était 7h30. Et aujourd'hui, le gouvernement, à travers la fonction publique, a estimé que, mais il y a un problème. 7h30 dans les conditions actuelles, c'est quand même assez difficile. On a porté, après les négociations avec le bon syndical, l'heure de début à 8h. Et il y a une marge. Et avant, je vais vous rappeler, dans l'ordonnance de 1982, c'était de 7h30, vous arrivez à 9h, vous êtes réputé retardateur. Et après 10 heures, vous êtes réputé absent. Mais aujourd'hui, on prend 8h30, parce qu'on va jusqu'à 8h30, et c'est à partir de 8h30 jusqu'à 9h30 qu'on vous considère comme retardataire.
Vous avez suivi un fonctionnaire dans le reportage de Kinshasa qui dit que quand vous arrivez à 8h30, les chefs des services vous disent que vous êtes en retard.
Oui, mais franchement...
On ne tient pas compte des embouteillages du transport.
Non, les embouteillages, parce que vous en parlez. Mais les embouteillages, c'est partout. En Europe, en Asie, partout il y a les embouteillages. Mais quand on veut remettre de l'ordre, quand on veut réformer, mais il faut aller jusqu'au bout de la logique. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Si on commence à prendre des embouteillages comme motif pour justifier les retards, on ne va jamais s'en sortir. Vous ici, vous nous avez invités 19h15. Bon, jamais même moi, je commence à vous dire, il y a des embouteillages. Et vous savez combien il y a d'embouteillages sur cette route. Il y a des embouteillages. Mais alors, qui va nous le pardonner ? On va pas continuer comme cela. Les embouteillages.
Moyens de transport aussi. Vous avez un véhicule à vous privé. Le transport aujourd'hui est compliqué selon les fonctionnaires. Je reprends les propos des fonctionnaires.
Vous n'avez aucune idée de la façon dont je suis arrivé ici, mais je suis quand même arrivé. Ça veut dire tout simplement que les fonctionnaires, quand on entre dans l'administration publique, on a un contrat. On doit se dire ça comme ça. Être admis sous statut, c'est une sorte de contrat qu'on a avec l'État. La rémunération a une contrepartie. Et la contrepartie du fonctionnaire, c'est les prestations qu'il a à faire. Il doit rendre ses prestations et l'État a l'obligation de lui rendre et de lui remettre une rémunération. Il y a des problèmes, on va peut-être en parler, il y a des problèmes, les problèmes sont réels, mais il faut tenir compte de la bonne volonté, la bonne foi, et il faut à un certain moment que quelqu'un tape la main sur la table pour dire stop, on doit avancer et il faut qu'on avance, et ça c'est la décision qu'a prise le gouvernement de la République à travers le ministère de la fonction publique, à travers ce décret, pour remettre les choses dans l'ordre. Vous arrivez au travail à 8h, 8h30, vous prestez jusqu'à 16h, et les conditions de travail. C'est aussi le temps de repos pour les fonctionnaires. Parce que quand on parle de conditions de travail, il y a les aspects matériels, je suis d'accord, il y a des aspects organisationnels, mais il y a aussi des aspects psychosociaux. Et quelqu'un qui travaillait du lundi au vendredi, on lui dit que le samedi, tu dois rester à la maison pour essayer de concilier la vie professionnelle et la vie familiale, ça fait partie des conditions de travail. Et quand on assouplit les heures d'arrivée, au lieu de 7h30, on va jusqu'à 8h, 8h30. On assouplit, c'est des conditions du travail. Et donc, il faut qu'on... Quand on dit à une femme qui vient d'accoucher, un enfant qui a encore l'âge de moins de 6 mois, et on lui dit, quand tu es encore en train d'allaiter cet enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne ses 6 mois, tu as... Nonobstant le droit au congé de maternité, tu as droit d'une demi-journée de repos pour te permettre. Ça, c'est des conditions de travail. Mais j'ai l'impression qu'au lieu d'insister sur des aspects positifs de cette réforme, on est plus en train de rester sur le constat, sur l'état des lieux. Pourtant, on est tout à fait d'accord de l'état des lieux et le VPM ne cesse d'y revenir lui-même dans les différentes occasions.
Alors, on vous garde encore dans cette émission, Carlos Kialoto, le temps pour nous de donner la parole aux autres invités qui sont avec nous dans ce débat. Guy Koukou, vous êtes président de la Confédération démocratique du travail CDT, ainsi que les coordonnateurs de l'intersyndicale nationale du Congo. Alors, comment vous réagissez aux propos de M. Carlos Kialoto qui pense qu'on s'attarde plus sur le négatif plutôt que sur le positif. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans les travails des fonctionnaires aujourd'hui. On a assoupli les conditions du travail des fonctionnaires de l'État aujourd'hui. Votre réaction?
Merci beaucoup, Madame la journaliste. J'ai suivi M. Carlos, mais M. Carlos ne fait que justifier l'injustifiable. Il n'a donné aucun signe de changement dans ce qu'on reproche. Il ne suffit pas de dire qu'on a amélioré parce qu'on va se reposer le samedi, parce qu'on va se reposer. C'est pas ça le problème. Il a bien suivi les reportages. Que dit-il? Les gens qui veulent bien venir à 8 heures, ils arrivent sur leur arrêt, ils doivent faire 4 heures du temps, il n'y a pas de transport. Que dit-il? Que dit-il lorsque quelqu'un même a une voiture, il n'y a pas de route pour arriver à son lieu de travail? Que dit-il? Que dit-il lorsque on arrive sur le lieu de travail? On est arrivé à 8 heures pour faire quoi? Pour rester où? J'arrive, je ne sais pas m'asseoir. Et parmi les fonctionnaires, il y a des malades, il y a des diabétiques, des gens qui ne peuvent pas tenir longtemps dans la journée. Donc on va faire mourir les gens. Parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes, qui ne peuvent pas tenir pendant longtemps. Que dit-il par rapport à cela? On ne peut pas venir, quand on est géré, se prévoir. Un gouvernement, un employeur, dans le monde entier, un employeur, c'est lui qui donne les conditions de travail. Moi, je pensais que M. Carlos allait dire oui pour les retards, parce qu'il n'y a pas de chaises, parce qu'il n'y a pas... Voici ce que l'État va faire maintenant, désormais, dans les bureaux, on va mettre des tables, on va mettre ceci, on va évacuer ce problème. Je croyais qu'il allait dire les gouvernements prennent des mesures parce qu'il doit y avoir peut-être des bus de fonctionnaires pour leur permettre de les éviter ces retards. Je croyais qu'il allait dire que non maintenant, parce que le fond du problème, c'est quoi, madame? Et ça a été fait dans la précipitation. D'abord, il faut voir à quel moment on a signé tous ces décrets. Puis on va dans... Il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup plutôt d'incohérences dans tous ces arrêtés des décrets qui ont... Beaucoup d'incohérences. D'ailleurs, nous sommes en train même de préparer une correspondance à Madame la Première Ministre par rapport à ces décrets-là. Trop d'incohérences. Comment voulez-vous, madame? Un employeur fixe, l'horaire, ça se fixe par décret. Et puis on vient changer par un discours. Parce que c'est normal. Au lieu de reconnaître que ça a été mal fait, on doit refaire les choses. On dit, bon, oui, c'est vrai, il y a des difficultés. Les textes, lui, restent 7h30. Dans les textes, c'est autre chose, dans l'application. Mais attendez, il y a aussi des gens qui nous regardent. Nous devons faire des choses. La manière dont ça a été fait, madame, vous savez vous-même, c'est une, comme on dit, un droit, dans une période suspecte. C'était à un moment où on attendait la publication des résultats, le gouvernement assumant les affaires courantes, et c'est le moment où on s'est précipité pour faire des décrets, d'abord, sans discuter avec les partenaires sociaux. Parce que dans tous ces décrets-là, il y a même beaucoup de violations des conventions internationales, même des lois. Un décret qui annule les dispositions d'une loi, un décret qui... Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas pour aujourd'hui, je ne voudrais pas aller là-dedans. Pour aujourd'hui, je voudrais, madame, vous dire qu'est-ce tout ce que nous, les organisations, les syndicats, nous demandons au gouvernement, on doit s'asseoir. On dit, l'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. L'erreur, c'est quoi? Ça a été fait dans la précipitation. On aura tout beau, on risque de devenir à chaque disposition de ce décret. Parce que l'application continuera à poser des problèmes. Parce qu'on ne va pas licencier tous les fonctionnaires, c'est impossible. On ne peut pas mettre des gens devant des pièges. Les textes disent autre chose et puis on dit oui, mais on peut comprendre. Non, lorsqu'on voit qu'il y a un problème, on doit régler les problèmes. On ne cherche pas à se donner raison, parce que nous n'avons pas besoin de raison. La RDC, c'est notre pays. Nous devons faire des choses pour nos frères. Parce que ces fonctionnaires sont nos compatriotes, sont nos frères, sont nos collègues, sont nos amis. Tout le monde veut travailler. On ne cherche que le travail. Mais les conditions du travail ne sont pas bonnes. C'est ça qu'il faut améliorer. Sinon, dans les jours qui viennent, il y aura beaucoup de gens qu'on va attraper avec des hémorroïdes, parce qu'ils vont se mettre debout toute la journée. Il y aura des femmes qui vont beaucoup avorter parce qu'ils sont grosses, ils vont aller, il n'y a pas un endroit pour s'asseoir. Il y aura beaucoup de problèmes, madame.
Donc, alors, moi, vous dites qu'on
s'assoie, qu'on amène des vraies solutions, mais qu'on ne nous amène pas des chansons, des éloges, lorsque tout le monde se plaint, et puis on trouve qu'on peut se faire des éloges lorsque tout le monde est en train de crier.
Vous estimez que ces mesures ont été prises dans la précipitation
Dans la précipitation, la...
Vous auriez souhaité que ça se prenne quand? Après la rencontre avec les partenaires sociaux, oui. Avec les syndicalistes, avec les fonctionnaires?
Tout à fait. Toutes les lois qui ont été prises d'avant, ça se passe comme ça. Parce qu'il y a même des procédures. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les conseils nationaux du travail. Lorsqu'il y a des décrets comme ceux-là, on fait les projets. On envoie aux partenaires, on fixe un conseil, on se retrouve. On vient discuter et puis on voit les faiblesses de ce texte et puis on cherche ensemble comment corriger. Ça n'a pas été le cas. Même les experts qui ont travaillé, on ne se retrouve même pas dans tout ce qui a été publié. C'est quelque chose que le cabinet de son Excellence peut-être s'est accaparé au lieu de rester dans le travail des experts. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, comme je viens de vous le montrer, et parce qu'il y a aussi la praticabilité de ces mesures-là, on va faire des rétro-pédalages à chaque instant, parce qu'on sera buté, on n'a pas construit des bureaux. On dit, dans un bureau, on doit avoir
1000 personnes dans un bureau, alors que c'est un endroit où qui doit abriter à peu près 200 personnes. Bon, les restes vont faire quoi?
Merci.
Je viens aujourd'hui, je suis dehors. Demain, il pleut, je suis dehors. Sous le soleil, qu'est-ce que je vais... On me demande de faire quoi? Je vais rester. Ils finiront par revenir au naturel. On dit chasser le naturel, ils reviennent au galop.
Polydor, merci Guy Koukou. On va vous redonner.
Après un
merci.
Temps, les gens vont se fatiguer et vont reprendre les vieilles.
Merci Guy Koukou, Polydor Tanguili. Vous êtes expert en matière de travail, secrétaire exécutif du groupe Monsala. C'est un groupe d'experts en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvrés. Vous venez de suivre là le ministère de la fonction publique représenté par Monsieur Carlos, qui est conseiller en charge des réformes à la vie spinature de la fonction publique, et les syndicalistes Guy Koukou. D'un côté, on salue les mesures prises par le ministre de la fonction publique. De l'autre côté, on estime que ça a été fait dans la précipitation.
Merci pour la parole. Effectivement, fait dans la précipitation, mais je ne vais pas entrer dans ces débats qui portent à voir les aspects positifs ou négatifs. Mais moi, je vais plutôt questionner la philosophie de la réforme en République démocratique du Congo. Et je vais faire une approche comparative par rapport à d'autres milieux que j'ai eu à visiter pour voir qui est le réformateur congolais. Nous avons eu les colons qui sont arrivés, qui nous ont trouvés dans la brousse. Ils nous ont doté des immeubles. L'immeuble de la fonction publique a été construit avec une ambition de doter l'administration des bâtiments. Et à l'époque, il y avait à peine 2-3 personnes dans le locaux. Les colons partis, nous avons pris les choses à main. Mais qu'est-ce que nous avons changé? Nous avons changé la philosophie du changement. Nous avons manqué de l'ambition. Nous nous sommes concentrés sur les sortes, les textes. Et là, je relève ici un élément historique des autorités, des décideurs de l'époque qui se sont fait entourer. Je n'ai pas de problème avec des juristes, je n'ai pas de problème avec les économistes, hein, qui sont dans le soft. Mais le grand péché, c'est d'avoir oublié de se faire entourer des constructeurs, des bâtisseurs. Visiter les États-Unis, moi je le fais à travers les bus, vous allez apprécier le fondateur de cette nation à travers la grandeur du bâtiment. Ils ont donné d'abord de l'importance au matériel. Ils ont donné de l'importance au physique. Il faut voir comment ils ont tracé les routes. Voyez les colons, comment il a tracé la route de Matadi. Vous sentez la détermination dans la philosophie du changement. Il veut changer les choses, mais il s'inscrit dans l'avenir. Lorsque nous questionnons le processus de réforme, il ne s'agit pas seulement de la réforme de la fonction publique, hein, mais il s'agit de nos différentes réformes. Nous restons dans les textes sans qu'il y ait une mise en contingence de tous les axes. Faut-il dire ici que les axes de réforme sont dans une complémentarité, compénétration. C'est un peu ce qu'est en train de dire Guy Koukou. Ça veut dire tu réformes le temps, tu te concentres sur le temps, mais tu oublies que par rapport au temps, j'ai l'obligation d'heures de travail et non d'heures au travail. Et pour que je consomme mes heures de travail, les conditions matérielles doivent suivre. Donc, on sent comme s'il y avait une sorte de manque de compénétration et une absence de perspective. Une absence de perspective lorsqu'on fait de la réforme. Et c'est comme ça, puisqu'on a donné de la valeur au soft, la réforme de 81 a pataugé. La réforme de 2005 a pataugé. Et on évolue dans le soft et le matériel ne suit pas. J'aurais bien voulu voir le ministère de la fonction publique avoir une ambition sérieuse de désengorger les administrations. Rêver de construire un grand bâtiment qui regorge tous les fonctionnaires dans des espaces, par exemple au Kakokolo ici. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette ambition ? Un grand bâtiment de 20 niveaux. Je salue en passant l'ambition du centre des finances. Mais cette ambition, la fonction publique devait s'en approprier et se doter les moyens. Je ne suis pas contre les textes, puisque les textes nous demandent de s'asseoir sur les chaises, d'avoir du papier. C'est comme ça que j'ai dit, on s'accroche au simple plutôt qu'au complexe. Et au moins coûteux plutôt qu'au coûteux. Quand vous voyez les bâtiments construits aux États-Unis par leurs ancêtres, quand vous voyez les bâtiments, les routes construites là-bas, vous dites, tiens, ce monsieur a pensé à ses enfants qui viendront 200 ans, 300, hein, après. Voilà, c'est là où moi j'ai dit qu'il faut questionner. Donc, j'invite donc nos autorités à revoir, à repenser la philosophie de la réforme. Puisqu'au fait, les diagnostics, tel que l'a dit le conseiller, c'est un diagnostic redondant et récurrent, qui revient toujours. Mais nous avons changé les textes. Nous venions même de revoir le cadre légal de la fonction publique. Il y a la cernage juridique qui est en train d'être consommée et d'être mise à jour. Mais ça change quoi, au juste ? Ça change quoi ? Ça change quoi ? Donc, il faut un dérivatif au niveau de la philosophie de la réforme pour que nous ne puissions pas revenir sur les mêmes choses. Je salue le fait que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a bien voulu recadrer les choses, puisque le facteur temps est un élément essentiel pour l'organisation du travail. Et lorsqu'on ne tient pas compte de ça, hein, on tombe dans le désordre. Mais cependant, hein, il y a quand même, comme on le dit, ce qui est fait sans moi est fait contre moi. Nous aurons bien voulu que les processus participatifs commencent à la base, qu'il y ait une analyse factuelle qui soit faite, et le consommateur de la décision aurait déjà émis l'avis avant de voir d'être mis dans le fait de consommer la décision. Et cet aspect, c'est un manque criant que nous pouvons déplorer ici. Le conseiller a évoqué l'aspect thérapie de choc. Mais qu'il soit dit en passant que la thérapie de choc est toujours accompagnée du dispositif tampon. Il est question de voir ici quel est quel est le dispositif tampon qui accompagne cette thérapie de choc. Sinon, le choc aura broyé le corps, hein, et au fait, on aura tout perdu.
Merci, Polydor. Je vais vous donner la parole, Monsieur Carlos. Je sens que vous avez envie de répondre, hein, aux réactions des uns, aux analyses des uns et des autres. Mais avant cela, on va prendre cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa, qui veut donner aussi son point de vue.
C'est Japhet et on va depuis la ville de Kinshasa. Nous saluons les réformes faites par les ministres de la fonction publique. Ces efforts fournis par les ministres montrent la volonté du ministre de ce secteur de pouvoir servir la population. Au début, c'est difficile pour respecter les nouvelles horaires de service. Mais les fonctionnaires doivent montrer l'amour et la volonté de servir la nation. Le manque des bureaux se justifie par le recrutement de nouveaux agents ces derniers temps par le gouvernement. Pour pallier à cette situation, le gouvernement congolais doit construire d'autres bâtiments ou soit réaménager l'horaire de chaque agent afin de répondre aux principaux besoins de chaque agents dans ce secteur.
Alors, on va écouter cet autre auditeur de Kinshasa aussi qui appelle comme ça. Vous allez réagir du coup, monsieur Carlos. On va écouter Chico. On me dit qu'il y a un auditeur Chico qui est en ligne. Est-ce qu'il est en ligne?
Chico Bassa, je vous appelle ici à Kwango. Le problème avec le problème avec l'État congolais est qu'il prend des mesures sans étudier les paramètres. Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, pour ne pas citer d'autres provinces. L'État congolais sait très bien que la majorité des fonctionnaires de l'État ne possèdent pas les moyens de transport personnel, d'un côté. Et de l'autre côté, le problème d'embouteillage fait pleurer tout Kinois, travailleurs comme des brouillards. Comment on peut demander à un agent d'être au travail à 8h? C'est inadmissible. Avec quel salaire d'ailleurs? Ou toujours avec les salaires insignifiants que touchent les salariés? Avant d'amener ce qui se fait ailleurs, il est bon et mieux d'améliorer ce qui ne marche pas chez soi. Ces mesures devaient être d'application que dans un pays où l'État connaît la valeur d'un fonctionnaire de l'État.
Carlos Caloto.
Vous savez, je remercie les auditeurs pour leur réaction et tous les collègues qui ont intervenu sur cette thématique. Je veux commencer par donner quelques précisions. Je comprends peut-être monsieur Guy, qui est patron d'un syndicat mais qui évolue dans le secteur de droit commun. Il parle de Conseil national du travail et tout ça. Et dans les secteurs publics, on a l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Et quand vous dites qu'il n'y a pas eu de concertation, il y a précipitation, bon, je ne veux pas trop perdre mon temps de parole sur ces aspects, mais je veux juste vous répondre en vous disant que s'il y a un défenseur du dialogue social au sein de l'administration publique, c'est bien le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, parce que le renforcement du dialogue social, ça fait partie des attributions du ministère de la fonction publique. Donc, il n'y a aucun décret qui a été, parmi ceux qui ont été signés par le gouvernement, qui n'ait respecté toute la procédure requise par rapport à la réglementation en vigueur. Donc, les dialogues sociaux dont on parle par rapport à la prise de décrets, de règlements d'administration, on ne le tient pas devant le Conseil national du travail, parce que le Conseil national du travail, ce n'est pas le cadre idéal pour discuter des sujets qui concernent le fonctionnaire. Donc il y a toujours cette part de choses qu'il faut faire entre le contractuel de droit privé, de droit commun, et ceux qui sont régis par le droit de la fonction publique. Donc ça, c'est un premier détail et il est très important. Deuxième détail, c'est que, je l'ai dit, on ne fait pas table rase du constat. Le constat, c'est qu'il y a des problèmes qui sont structurels. Et on ne va pas construire ce pays avec l'attentisme. Il y a des problèmes, il faut prendre des décisions. Mais effectivement, ces décisions ne doivent pas se prendre sans méconnaître le contexte et l'environnement dans lesquels ces règles doivent s'appliquer. C'est pour ça que le gouvernement de la République, à travers le VPM, dernièrement, face aux problèmes récurrents de cet engouement qui est constaté au sein des services, qui doit être applaudi d'abord, parce que c'est une sorte de prise de conscience. C'est une force de prise de conscience. Les gens qui étaient payés et qui ne venaient même pas, se présentaient même pas au niveau de leur service, quand ils voient que l'État veut reprendre les choses en main et qu'ils viennent répondre présent dans leur service, c'est un acte d'encouragement. Mais les mesures...
Répondre présent sans travailler.
Non, mais c'est ce que...
Vous signez la présence,
c'est ce que je veux.
Sous un manguier.
Mais c'est ce que je dis. Le collègue Polydor a dit quelles sont les mesures tampons qui ont été apportées par la fonction publique pour encadrer cette thérapie des chocs. Je vais y aller très rapidement. C'est premièrement l'interdiction de recrutement abusif de l'administration publique. Parce qu'il y a un camarade qui a dit qu'il n'en a jamais été ainsi auparavant. Quand on a créé les ministères de la fonction publique, on dit que nos parents, quand ils c'était des fonctionnaires valeureux, ils n'allaient pas dans un bâtiment rempli de personnes qui ne faisaient rien. Donc, cette situation que nous héritons aujourd'hui, on l'a héritée parce que l'administration, je l'ai dit tantôt, s'est dégringolée au fil du temps. Donc, Premièrement, interdire le recrutement abusif au sein de l'administration publique pour éviter de pléthore. Deuxième mesure, oui, il faut renforcer les bâtiments. Il faut redorer ce qu'on appelle la marque employeur. L'État a une marque, a une image qu'il faut préserver. Lorsqu'on voit les fonctionnaires partout sous le manguier, doit-on continuer comme ça? C'est à ce problème qu'il faut des réponses. Troisième mesure, oui, le transport, c'est même un droit pour les fonctionnaires. Mais ce droit, comme le disait le collègue Polidor, on ne va pas juste se limiter à dire c'est un droit, mais il faut que ça soit vécu. Mais pour que ça soit vécu, c'est une organisation qu'il faut. C'est une politique qu'il faut mettre en place. Et la fonction publique est en train de porter une politique du transport, pas seulement pour les ministères de la fonction publique, mais pour l'ensemble du secteur public, pour l'ensemble de fonctionnaires de l'État. Et aujourd'hui, il y a certains services qui s'organisent tant mieux que mal avec des bus et tout ça. Mais ça, c'est des mesurettes. Il faut une bonne stratégie. Et c'est ce qui est en train d'être construit par la fonction publique, avec la collaboration du ministère des Finances, du budget, des ITPR et tous les services concernés, pour essayer de mettre en place une bonne stratégie. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Donc, troisième mesure, tampon pour essayer d'encadrer tout ça, mais c'est la mise en place de cadres organiques, je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a 300 personnes pour 10 places. Ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Il faut que la fonction publique, en tant que DRH de l'État, puisse dire, voilà la façon dont on doit fonctionner. Toi, ministère du budget, par rapport à la mission que l'État t'a confiée, tu ne dois pas avoir plus de 1000 agents. Et ces 1000 agents doivent prester dans tel bâtiment. Aujourd'hui, vous avez dit que vous félicitez le centre financier, mais le centre financier, Place Royale, y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis par le gouvernement pour tant soit peu commencer l'amélioration du cadre de travail des fonctionnaires. Aujourd'hui, il y a au niveau de Royal plusieurs administrations qui sont regroupées à la Place Royale, mais il faut encore plusieurs Places Royales, il faut encore plusieurs centres financiers. Que ce soit au niveau central, parce qu'on a l'habitude de confondre administration publique et services centraux, il y a aussi au niveau provincial. Et dans le cadre de PEDEL 145 territoires, il y a dans ce projet-là la perspective d'avoir au niveau de chaque territoire un bureau administratif de services de territoire pour assurer la qualité des services publics. Et dans le gouvernement, vous avez suivi dans le programme d'action du gouvernement, sur base de 6 axes principaux dans la vision du président de la République, l'amélioration de la qualité du service public fait partie des priorités du gouvernement. Et alors, comment on améliore la qualité des services, c'est aussi à travers un cadre de travail propice, et ça, c'est parmi les urgences.
Alors, vous avez parlé des pléthores, on va y aller très très rapidement parce qu'on nous courant derrière le temps. Vous avez reconnu qu'il y avait pléthore au niveau de l'administration publique. On va vous donner le temps, ne vous inquiétez pas, M. Polidor Tinguely, qu'il y avait pléthore. Où est-ce qu'on en est déjà avec les réformes initiées qui devraient permettre aux personnes qui ont atteint l'âge de la retraite, de prendre paisiblement leur retraite? Est-ce qu'on en est?
Merci pour cette question. Oui, parce que la mise à la retraite fait partie, effectivement, des stratégies du gouvernement pour assurer la maîtrise des effectifs. Et maîtriser les effectifs, c'est aussi essayer de faire partir à la retraite tous ceux qui ont rendu de bons et loyaux services à la nation, mais qui ont atteint les limites légales, qui sont 65 ans de carrière ou 35 ans d'ancienneté. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y a toute une stratégie de mise à la retraite qui a été développée au niveau de la fonction publique. Vous souviendrez que en 2022, plus de 11 000 personnes sont parties à la retraite. Et c'est une stratégie qui s'intègre dans le long terme, parce qu'on a comme ça trouvé une sorte de cumul 30 ans en avant qu'il n'y avait pas de mouvement de mise à la retraite. Ça conduit à une sorte d'amassement de personnes vieilles au sein de l'administration publique, pas incompétentes forcément, mais vieilles. Mais il y a un processus qui doit se continuer, et la première ministre Judith Suminois a convoqué prochainement le CPMAP, donc le CPMAP c'est le comité de pilotage de la réforme de l'administration publique, sur la question de mise à la retraite. Le VPM y est revenu tantôt. On doit continuer avec la mise à la retraite, qui a été améliorée au fil du temps. Vous savez que la retraite était considérée comme une mort pour la plupart, des fonctionnaires, une sorte de résistance à la retraite, mais aujourd'hui, il y a une sorte d'engouement autour de la mise à la retraite. Beaucoup de demandes de départ volontaire sont enregistrées.
Carlos,
et on va continuer
merci,
sous cette lancée-là.
Merci beaucoup. On va prendre cet introducteur qui nous appelle de Bukavu, je pense, Bukavu, au sud Kivu.
Maître Ulimwengu Kitungano Joseph, depuis la ville de Bukavu. Cette thématique, moi, je l'analyse sous deux volets. Le premier volet, c'est du côté de l'État congolais. À chaque fois que l'État congolais prend une décision, doit l'accompagner avec des mesures pour que cette décision ne puisse pas trouver des difficultés aux usagers. Dans les cas sous examen, l'État devrait par exemple disponibiliser les véhicules pour les fonctionnaires qui habitent à distance des lieux de service. L'État devrait aussi construire des locaux et y équiper afin que ces travailleurs où ces fonctionnaires travaillent dans de bonnes conditions conformément à la législation en matière du travail. Du côté des fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires ne devraient pas se cacher derrière les raisons qu'ils ont évoquées pour échapper au nouveau programme réglementant les heures de service par le gouvernement congolais. Nous savons tous la manière dont les fonctionnaires de l'État travaillaient dans la CENTA. Il y a ceux-là qui arrivaient à 8h et quittent à 9h, et il y a ceux-là qui arrivaient seulement au service et signent avant de partir sans toutefois prêter, y compris aussi une grande liste de fonctionnaires fictifs. Prenons le cas où ces fonctionnaires seraient appelés à 8h juste pour percevoir de l'argent. Ils devraient évoquer les moyens qu'ils évoquaient. Je crois que tout le monde devrait respecter l'État.
Alors, Guy Koukou, comment vous réagissez à l'analyse de Olimwengu, Maître Olimwengu de Bukavu?
Oui, Madame la journaliste, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il n'y a rien de neuf sous le soleil, Madame. Il n'y a rien de neuf. Des problèmes, on n'est pas contre la réforme. Je pense dans toutes les interventions, vous avez interrogé le fonctionnaire, vous avez interrogé tout. Les problèmes, ce n'est pas la réforme. Les problèmes, c'est les conditions que la réforme va imposer. Comment voulez-vous appeler les gens à dormir dans une maison qui n'existe pas? Parce que votre question, le débat ici, je vois les thèmes que vous nous avez donnés, c'est comment améliorer les conditions de travail de la fonction publique par rapport aux plaintes qui ont été reçues. Et moi, quelles sont les plaintes? Les plaintes, un, nous arrivons au travail, on nous a demandé d'être à temps. Quand on y arrive à temps, on ne sait pas où s'asseoir. Quelles plaintes? On dit, mais nous sommes trop nombreux, nous sommes pendant des périodes d'épidémie, nous risquons d'être contaminés, et il n'y a pas où travailler. On ne travaille pas debout. Ce n'est pas parce que quelqu'un est arrivé à 8h qu'on dit, non, il y a engouement, les gens viennent maintenant à 8h, et puis quoi? Ils ne travaillent pas parce qu'ils ne s'assoient pas. Donc, ils ne vont pas travailler, même s'ils arrivent à 8h. Ce n'est pas ça qu'on cherchait. Ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas que les gens arrivent. Le but est que les gens travaillent. Mais pour travailler, il faut qu'ils trouvent une chaise pour l'installer et que son chef, en plus, lui donne du boulot. Les gens qui sont à 10, à 20, sous les arbres, ils n'ont aucun chef là-bas. C'est entre eux, comme les langas des Kinois, les waya-waya, les gens qui n'ont pas un endroit. Donc, ils se retrouvent entre eux, ils vont bavarder. Si on les impose de rester jusqu'à 7h, ils continueront à causer de tout et de rien sans toucher à un travail. Est-ce que c'est cela qu'on cherchait? Non. Est-ce que les gens disent encore, on arrive, mais les conditions même pour que je travaille de 8h à 16h, c'est bien. On me paye quoi? Je peux rester comme M. Tanguy l'a dit, je peux être là. J'ai fait 8h au travail ou 7h au travail, mais je n'ai pas travaillé. C'est ça. Or, nous tous, nous voulons, quand il y a la réforme, on veut la performance. Parce que nous tous, on veut que tout le monde produise. Il y a des gens qui prennent l'argent inutilement. Mais maintenant, pour mieux faire, puisque les constats, comme quelqu'un a dit, les constats deviennent une rhétorique de tout le temps. Les constats sont faits, mais maintenant, puisqu'on avait les constats, on devait donner la réponse. La réponse, c'était quoi? 1.
le gouvernement équipe les bureaux. Deux, il construit les nouvelles administrations, les bureaux, à travers tout ça. C'est ça les solutions. Donc, M. Carlos, s'il veut donner, il est conseiller du ministre. Je pense que ce sont des choses qui doivent nous dire que non, dans 6 mois, en tout cas, vous verrez, dans tous les bureaux, il y aura du travail. Tous les fonctionnaires seront contents. Ils vont même se précipiter davantage pour être au bureau. Deux, ils vont construire de nouveaux bureaux. Tout le monde aura sa place. Ils verront, tout le monde va venir. Et nous tous, nous soutenons les réformes. Nous ne disons pas ceci, qu'on est contre les réformes. Non. Nous disons que ça a été mal pensé, ça a été mal fait, parce que ça ne résout pas les problèmes. Les problèmes n'est pas résolu. Le problème est que les gens viendront, ils ne travailleront pas comme avant, ils ne travaillaient pas. Ils vont continuer à aller. S'ils touchaient...
Je crois qu'on a perdu M. Koukou. Je crois qu'on a perdu la réception. Il est là.
C'est ça le problème. On donne des vraies solutions, mais pour les dialogues, il a parlé des dialogues. J'ai dit, et comme M. Tanguay l'a dit, tous ces textes qui ont été faits sans nous ont été faits contre nous. Nous, les syndicats, on a imposé beaucoup de choses là-bas qui, normalement, non. Et il n'y a pas eu un dialogue. Il dit que le VPM est champion de dialogue. Je ne refuse pas. Il est champion du dialogue. Mais nous parlons d'un cas. Pour ces textes, il n'y a pas eu de dialogue. Parce que nous, moi, je suis membre de l'INAP. Mon syndicat est membre de l'INAP. Je parle en conséquence. Il n'y a pas eu de dialogue. Et même quand on a revu les heures de travail là, de 7 heures au lieu de 7 heures, c'est après coup. Lorsque tout le monde a crié, mais oui, mais à 7h30, comment nous serons là-bas? Comment il n'y a pas de transport? C'est sur base de ça qu'on est revenu. Or, on aurait dû penser à ça. Quand on faisait les textes, il y avait lieu des dialogues avec les représentants des fonctionnaires, les délégués, les syndicats qui sont là. C'était des choses qui devaient être dites et on devait sortir des textes qui sont respectés. Mais maintenant, même les dispositions qu'on applique maintenant violent même cette loi-là. Alors pourquoi on l'a pris? On viole les décrets. Comment on peut prendre un décret qui n'a même pas 6 mois et on commence à les violer par une parole?
Merci, Guy Koukou. Polydor Tanguedi.
Ben, je dois ici avouer que le vice-premier ministre a créé une dynamique au sein du ministère de la fonction publique et les œuvres sont là, on les salue. Mais comme l'a dit le conseiller, au même moment, nous sommes là, nous experts, pour lui mettre à sa portée certains aspects des choses qui échappent dans le produit de ses actions. Je dois ici souligner que lorsque mon co-débatteur a évoqué les dispositifs tampons, on constate qu'il se dégage un manque de synchronie. Les dispositifs tampons s'inscrivent à long terme, à moyen terme, alors que le choc est établi. Voilà pourquoi il y a une sorte de résistance psychologique à la chose, au changement qu'on veut imposer, bien qu'il soit bénéfique. Il faut souligner, au-delà des questions telles que soulevées par M. Guy Koukou, liées à la participation, à l'entorse juridique par rapport au parallélisme de forme, je souligne ici aussi que le texte a été plus versé dans les questions des disciplines. Mais on a mis de côté les aspects liés au confort et au bien-être du travail, qui devait dégager une décision sur l'utilisabilité des personnes qu'on appelle à être en milieu du travail. Une chose est de les appeler, mais une chose est d'évaluer l'utilisabilité, puisque c'est l'utilisabilité qui mettra en contingence le temps, le matériel et l'organisation fonctionnelle. Voilà. Et ça fait qu'on n'a pas un dispositif organisationnel. Conséquent, on n'a pas le matériel. Bien qu'on change les temps, ça crée un couac. Soulignons encore ici qu'on observe une certaine... il faut parler de disharmonie ou de congruence dans les réformes. Je prends la rationalisation des structures.
je mets à défi le ministère de la fonction publique. Aucune rationalisation des structures n'a consisté à un dégraissage descendant des effectifs. Toutes les rationalisations ont porté à augmenter les emplois. Dans des bâtiments coloniaux, vous voyez la disharmonie ? Vous venez, vous nous dites que vous venez rationaliser, vous nous trouvez dans un bâtiment légué par les colons qui, lorsqu'il a rationalisé, a prévu 2 personnes, mais vous vous revoyez à la hausse. Voilà pourquoi je reviens dans le sens de mon intervention, qu'il faut repenser l'essence de la réforme. Moi, je rêve de ce Congo, en tant que Congolais, d'un ministre de la fonction publique qui a un conseiller en charge de construction des bâtiments. Je ne sais pas s'il y en a.
Il y en a. C'est le ministère de ZITP.
Non, non, un conseiller dans son cabinet.
Bien sûr.
Vous comprenez ? Qui rêve, qui se réveille le matin, qui dit, bon, comment nous pouvons faire quitter tel ministère ? Il aura quel terrain ? D'où viendront les moyens ? Il peut y avoir d'autres services. Vous voyez, il a les conseillers juridiques, conseillers financiers, conseillers ceci. Or, aujourd'hui, la meilleure des réformes sera celle qui va d'abord construire des bâtiments et décider sur les temps. Puisque lorsque tu m'appelles et que je te dis je n'ai pas d'endroit où m'asseoir, comme le dit M. Ducou, tu me donnes raison. Tu fais tomber la décision que tu as prise dans une déliquescence des valeurs.
Comment on peut arriver là-bas? Comment est-ce qu'on peut être dans un pays, dans une administration où on est arrivé là? Où on doit... Tu es fonctionnaire pour qu'on te recrute, c'est pour venir satisfaire à un besoin.
Oui, donc, mais, il y a un besoin. Mais quand le fonctionnaire arrive,
oui, mais c'est-à-dire
besoin et qu'il n'a pas de chaise,
madame,
il n'a pas de
bureau. Sans vous arracher la parole, monsieur.
Le débat est très intéressant. Non, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps.
Juste vous souvent permettre.
S'il vous plaît, je vais laisser monsieur Tanguedi conclure. Je vais vous donner la parole parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission.
Que je ne puisse pas donner l'impression que je suis contre ce qui est fait, puisque il y a l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, les fonctionnaires d'aujourd'hui n'est pas celui des non-parents des 1990. Donc, on sent le changement, mais sur certaines questions, il faut repenser les méthodes, surtout en matière des conditions matérielles de travail. Qu'on quitte les softs, il faut une décision ambitieuse de quitter les softs. Tout ce qui touche au stylo, au papier. Qu'on nous construise des bâtiments, qu'on cesse avec la réhabilitation. Voilà. Il faut qu'on change de paradigme, qu'on quitte la réhabilitation, qu'on aille vers la construction. Et si vous allez dans nos différents bâtiments, c'est la réhabilitation. Et vous réhabilitez quelque chose qui contient 4 personnes. Vous réhabilitez et vous rationalisez en augmentant, en revoyant à la hausse plutôt, à 7, à 8, à 10. Vous tournez en rond. Vous détruisez ce que vous construisez. Vous détruisez ce que vous réhabilitez. Il faut repenser ça. Et je crois qu'il faut des états généraux, qui, et des autorités qui ont cette impulsion. Je crois que si son excellence est en train de m'écouter, il peut faire de cet axe philosophique de la réforme le nouveau paradigme pour lui, poser les jalons de telle sorte que ses successeurs le trouvent. Ça peut même être une ambition nationale.
Merci.
Une ambition nationale de repenser nos réformes. J'ai évoqué ici le cas des États-Unis. Si vous circulez aux États-Unis à bus, vous voyez leurs bâtiments. Voilà.
Vous êtes impressionné. Alors, monsieur Carlos Caloto.
Très rapidement.
C'est votre conclusion.
Les constats, monsieur Polydor, monsieur Guy, sont revenus. Ils ont évoqué des faits tout à fait importants. Ils sont revenus dans l'état des lieux. Ça, c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des pléthores. Aujourd'hui, on est dans des bâtiments qui devraient avoir 50. Il y en a 5000. Donc, c'est des problèmes. Et à ce problème, il faut des solutions. Les problèmes de bâtiments, la construction des bâtiments, une politique de transport, c'est des questions, des politiques publiques structurelles et qui sont déjà en train d'être pensée et mise en œuvre. On ne peut pas dire que aujourd'hui le gouvernement ne fait rien pour améliorer le cadre de travail. Il a parlé du centre financier. Il y en a plein d'exemples où les services. Il y a certains services qui n'ont pas de problème d'effectifs pléthoriques. À l'inspection générale des finances aujourd'hui, vous n'allez pas là-bas. C'est un service public. Souvent, on a l'habitude de l'oublier. On va là-bas. Les cadres organiques de l'inspection générale est respecté. Les règles de recrutement sont respectées. Les recrutements, l'entrée dans la fonction publique, l'entrée méritocratique, le rajeunissement compétitif et qualitatif, le combat du siècle de la fonction publique, c'est un combat qui doit être maintenu. Et c'est un combat qui doit être encouragé. La rationalisation des cadres de structure organique. Mais ça passe par là. Les cadres organiques sont flambés par des effectifs pléthoriques. Il faut, quand quelqu'un dit comment on peut demander à un fonctionnaire d'arriver au travail à 8 heures, mais on lui demandait déjà d'arriver à 7h30 durant plus de 30 ans. Depuis 1982, les fonctionnaires devaient être au travail à 7h30. Mais quelqu'un qui vient et qui dit franchement, ça, c'est quand même pas possible au regard de tel autre facteur. Il ne dit pas que c'est seulement ça. On n'est pas seulement dans le texte. Je veux seulement rappeler que la réforme qui est portée aujourd'hui, bien sûr que les horaires sont fixés dans les règlements d'administration relatifs à la discipline, mais ce n'est pas le seul règlement d'administration. Il y a eu 13 textes qui ont été publiés par le gouvernement. Encore une fois, l'évaluation des compétences, la formation continue, l'organisation des services, tous ces textes, c'est pour qu'on ne se limite plus à dire 8 heures au travail, mais c'est 8 heures de travail. C'est-à-dire que le fonctionnaire qui n'arrive pas déjà au travail, comment il va travailler pour l'État? Donc, vous arrivez et on vous évalue annuellement ce que vous apportez. Et la réforme sur la politique salariale, je vais peut-être finir par là, mais pourquoi on réforme aussi la politique salariale? C'est pour mettre en cohérence 8 heures au travail, 8 heures de travail, et pour quelle rémunération? Pour quelle rémunération?
Je crois qu'on va revenir sur ce débat, le temps nous fait vraiment défaut. Guy Coucou, vous avez quelques secondes pour conclure. Je promets aux auditeurs qui sont très très nombreux et beaucoup d'internautes qui nous écrivent. Malheureusement, je ne sais pas lire vos réactions, faute de temps, mais je vous promets qu'on va organiser une autre émission sur la fonction publique. J'aurai l'occasion de lire toutes vos réactions, toutes mes excuses pour ce soir, chers internautes. Alors Guy Coucou, votre réaction, votre conclusion plutôt.
Merci, madame, pour la parole. Je crois que nous l'avons bien dit, les réformes sont importantes dans toutes les sociétés, nous en voulons, vraiment et encore, mais l'essentiel, c'est l'objectif des réformes. Pour les cas d'espèce, nous constatons que c'est une réforme qui a été faite en toute précipitation, et voilà, les effets sur le terrain sont là. Tout le monde s'en plaint, y compris le ministre lui-même. Et heureusement, M. Carlos aussi est revenu et a passé presque tout son temps à revenir à tous ces constats. Or, là, nous ne sommes pas venus pour ça. On était venus pour écouter que voilà les innovations qu'on a faites et voici les solutions qu'on donne à toutes ces choses. Mais je sors de cette émission, nous terminons cette émission sur le même constat qu'il n'y a pas une proposition ou quelque chose qui dit que voilà, pour améliorer, voici les bâtiments, voici on va acheter les bureaux, on va disposer et on va éviter les nuisances aux fonctionnaires parce qu'ils ne devront plus se mettre debout. Donc voilà, c'est malheureusement le constat que nous faisons, mais nous encourageons les vice-premiers ministres à pouvoir envisager de telles solutions. Il faut maintenant, on a fait des réformes, la réforme se fait avec l'argent, pour maintenant mettre la main dans la poche, pour maintenant accompagner ces réformes. Sinon,
merci,
les réformes feront encore plus du mal que du bien.
Merci Guy Coucou, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.